Merci beaucoup, merci pour cette table ronde extrêmement intéressante et stimulante. Après les expériences et les usages des acteurs du monde du travail sur cette question du cinéma, on a bien vu que il y avait des chemins qui étaient recherchés, des chemins alternatifs, des façons de faire différentes. Même si parfois elles peuvent paraître modestes, elles sont extrêmement ambitieuses et importantes. Ça tombe bien parce que la projection qui suit, qui est le film de Jean-Charles Masséra, Le déjeuner sur le stade, avec notre usine en arrière-plan, est un film réalisé donc par Jean-Charles Masséra dans le cadre d'une recherche menée par Thibault Blachka, qui est à ma droite, qui est chercheur. Et me semble-t-il, ce film, mais ils vont vous présenter avant la projection, cherche des chemins différents aussi, des chemins de faire avec, qui sont des chemins alternatifs, alternatifs voilà, à la production culturelle, industrielle dominante, si on peut parler comme ça. Et ça me semble intéressant que ce film soit projeté et vu aujourd'hui, parce qu'il mobilise en fait des formes de récit et de production et de faire avec plutôt que de faire seulement pour ou sur les personnes et là en l'occurrence les acteurs du monde du travail, les syndicalistes. Mais je me tais parce qu'il y a un échange après et je passe la parole ou à Thibault ou à Jean-Charles en premier, vous vous décidez pour vous présenter le film, donc je passe la parole à Thibault Blachka.
Merci Nicolas. On va pas être trop long pour laisser place à la projection. De toute façon, ensuite, il y aura débat. Simplement pour remercier Travail et Culture et tous les partenaires de cette journée pour l'organisation. C'est assez cool de pouvoir présenter ce film ici. Et dire simplement que ce film, au fond, c'est le fruit d'une rencontre entre Jean-Charles, moi et un groupe de salariés et de militants syndicaux CGT d'une entreprise métallurgique du Havre. Une rencontre et un partage. Au commencement, Nicolas l'a dit, il y avait une recherche, il y avait une enquête sur la politique culturelle d'un CE. Et à partir du moment où j'ai dit à Jean-Charles de venir un peu voir ce qui se passait là, c'est parti un peu en sucette quand même, pour notre plus grand plaisir, à vrai dire. Alors, on reviendra sur le processus de production du film, je pense, en fonction des questions qui nous seront posées ou pas, et en fonction des réponses qu'on voudra bien donner ou pas. Mais c'est vrai que pas à pas, presque à tâtons, à l'aveugle, est née un peu l'idée de produire un film de fiction dont le groupe de salariés et de militants seraient les interprètes. Voilà, donc vous avez 10 salariés dans ce film. C'est leur voix, leur visage, leur corps, leur attitude, leur pratique de vie, de loisirs, leurs questions. C'est aussi les endroits qu'ils fréquentent. Mais Jean-Charles les a fait entrer dans une fiction. Voilà, ce qui permet une chose à mon sens importante, c'est il se raconte autrement et par là il raconte autre chose, mais on en parlera après la projection. Voilà, je laisse la parole à Jean-Charles.
Bonjour. Ouais, si vous voulez rentrer, c'est maintenant en fait. Un truc hyper autoritaire. Vous voulez rentrer, mais faut rentrer. Ouais, je parlerai un peu plus après. Je suis pas en train de me débiner comme font beaucoup de gens quand ils présentent leur film. Je vous souhaite une bonne projection, etc. Parce que j'ai plutôt tendance à pouvoir parler pendant une heure et demie. Donc, juste savoir que je suis pas un réalisateur né. Je suis à l'origine écrivain et les 10 dernières années, j'ai pas mal œuvré dans le champ de l'exposition en art contemporain. Voilà, j'ai des pièces dans des musées, des centres d'art. Voilà. Pas loin d'ici, dernièrement, j'avais une expo au Centre de la photographie de Genève. Et puis la première expo que j'ai eue personnelle, c'était pas loin d'ici non plus, c'était à l'IAC à Villeurbanne. Donc je viens, tout ça pour dire aussi que je manipule plusieurs médiums et que je passe pas ma vie à faire des films ou à faire des livres ou à faire des expos. Mais souvent, je me pose la question en fonction de la visée, de la chose, qu'est-ce qu'il y a à dire, qu'est-ce qu'il y a à faire dans tel contexte, telle situation, quel est le meilleur médium possible, quel est le meilleur outil possible que je maîtrise un petit peu. Et dans le cas de ce que vous allez voir, il me semblait que la meilleure chose peut-être qu'il y avait à faire ensemble, parce que c'est quelque chose à faire ensemble. J'ai pas posé un regard avec des interprètes. On a construit ce film ensemble. Vous comprendrez pourquoi en voyant ce film après. Et je me disais que le meilleur moyen, c'était là, c'était peut-être le film. C'est un petit détail, mais c'est important de le dire avant. C'est-à-dire que j'ai un rapport à la forme, même si bon, ça c'est un travail qui est, où la forme est assez peu présente en tant que soi. J'ai d'autres livres plutôt classés en expérimental chez POL où on dirait que c'est d'abord la forme qu'on voit, même si la problématique est importante et elle dépasse largement le cadre d'une problématique purement littéraire. Ici, j'ai après la rencontre avec les 10 salariés, après les échanges avec Thibault, j'ai pensé que peut-être la meilleure chose à faire ensemble, c'était un film. Mais je veux dire, ça aurait pu être une série de photos, ça aurait pu être des podcasts radio comme j'ai fait, ça aurait pu être, bon, voilà, plein de choses que j'ai faites autrement, sous une autre forme. La forme cinéma est venue comme une réponse possible. Voilà, j'en dis pas plus, on parlera beaucoup après si vous voulez, sur tout ce que vous voulez, comment ça s'est construit, mais deux choses. Ça s'est construit ensemble, mais je précise une petite chose, parce que je sais que ça pourrait être interprété comme ça. C'est vrai que c'est des paroles qui ont été échangées entre nous. Je raconte ce film à partir de l'expérience, des loisirs, des centres d'intérêt, des questionnements surtout, des questionnements et des hésitations de 10 gars. C'est 10 mecs quand même, hein, ça se voit, c'est 10 mecs, vraiment, mais bon. Mais c'est aussi une rencontre, c'est-à-dire c'est une rencontre entre ces gars-là et moi, ou moi et ces gars-là. C'est-à-dire qu'on avait, qu'est-ce qu'on peut construire ensemble? Je dis ça parce que, par exemple, voilà, il y a un de mes amis là qui vient de sortir un livre qui traverse des questions qui sont assez proches aussi de certaines hésitations, certaines choses qu'on pourrait retrouver dans ce film. Arnaud Bertina, pour ne pas le nommer. Les deux derniers livres d'Arnaud Bertina, il se met en retrait pour récupérer une parole. Et c'est très, très, très fort. Moi, j'ai fait ça modestement dans d'autres travaux, notamment des travaux d'affichage à la Biennale de Rennes, par exemple, en 2008, ou dans la vallée de la Fench, entre Thionville et Metz, il y a une dizaine d'années, sur des panneaux. Ici, il y a une parole que je ne travestisse pas, mais elle fonctionne en échange avec ce que j'ai proposé. Donc, c'est important. Quand je dis construire ensemble, c'est ça. Je fais pas le mec. Il n'y a pas de surplomb, mais il n'y a pas non plus d'effacement de l'auteur. Voilà. À tout à l'heure. Bonne projection.
Donc après le déjeuner sur le stade avec notre usine en arrière-plan, je trouvais que, je le disais tout à l'heure, mais que ça illustre pas, mais ça s'inscrit bien dans la suite des propos de la journée, puisqu'il me semble qu'il y avait une interrogation qui était constante depuis la matinée et puis l'après-midi, c'était d'essayer de produire des formes qui soient différentes. Différentes par rapport au tuyau continu des industries culturelles dominantes, si on veut parler un langage un peu politique, en tout cas alternatives et des formes qui puissent nous étonner, mais au sens fort du terme. Et je trouve que le film de Jean-Charles et de Thibault, puisque le film s'est construit dans le cadre d'une recherche en sciences sociales menée par Thibault Blachka, répond bien à ça. Tant dans ses formes, qui sont étonnantes, en tout cas moi qui m'ont beaucoup interpellé, que dans la construction de ces formes. Et ce qui m'intéressait là aujourd'hui, c'était d'essayer de débattre avec Thibault et avec Jean-Charles sur la façon dont ces formes sont construites, comment elles ont été élaborées, comment ce chemin-là a été trouvé. Au début, c'est une recherche en sens social, et puis comme tu disais Thibault tout à l'heure, je sais plus comment tu as dit, tu as qualifié Jean-Charles a mis, je sais plus, la pagaille là-dedans, ou je sais plus comment tu le disais. Et donc ma première interrogation, peut-être elle s'adresse à Thibault, c'est, tu fais une recherche en sciences sociales sur un syndicat au Havre, à quel moment cette nécessité ou cette idée d'aller mobiliser des formes symboliques, qui sont celles-là pour le coup du cinéma, mais Jean-Charles a dit pourquoi il avait, ou alors en tout cas il le précisera, pourquoi il a choisi de mobiliser cette forme filmique. À quel moment, toi, ça t'a paru nécessaire, important ou en tout cas utile?
À l'origine, ma rencontre avec les salariés militants de Dresserand, elle se fait par hasard, à supposer que le hasard ait une part là-dedans. Je pense qu'on s'est rencontrés parce qu'on devait se rencontrer. Moi, j'avais une double interrogation initiale. La première, c'était c'est quoi un intellectuel, que ce soit un artiste ou un chercheur? Est-ce que c'est quelqu'un qui est pensif, replié sur soi et qui est accessible à la seule bourgeoisie? ou est-ce que c'est quelqu'un qui va prêcher la bonne parole au peuple? Voilà. Moi, je considérais que c'était ni l'un ni l'autre. Que l'intellectuel, il est pas là pour penser ou parler à la place des autres. Qu'il était là plutôt au final pour faire avec. Voilà. Et qu'il fallait pas tomber à la fois dans un appel à la révolte ou au lendemain qui chante. De toute façon, moi je n'y croyais plus. Je pense que les gars non plus n'y croyaient plus. Ni un appel à se replier sur des vies marginales, et ni un discours qui soit complètement déploratif et larmoyant. Et à partir de là, le faire avec, il se posait une autre question, c'est comment est-ce qu'on donne la parole, on en a parlé un peu tout au long de la journée, c'est comment est-ce qu'on donne la parole au monde ouvrier au final. Voilà. En sachant peut-être pour préciser que Dresseur Rand, l'entreprise, c'est un monde ouvrier au final qui est sur le déclin, quoi. Dresseur Rand, c'est la figure du métallo qui a longtemps incarné l'identité ouvrière. Mais aujourd'hui, la majorité des emplois d'ouvriers ne sont plus dans l'industrie, quoi. À Dresseur Rand, c'est encore le cas. À tel point que pendant, je dis un monde ouvrier sur le déclin parce que pendant le tournage du film, c'est une boîte qui a été rachetée en 2014 par Siemens. Et donc le 1er septembre 2020, alors qu'on avait commencé à tourner le film, qu'on avait dû arrêter à cause du confinement et autres, ils ont appris qu'il y aurait un plan social. C'était une entreprise d'à peu près d'un peu moins de 600 salariés, qu'il y aurait un plan social avec 295 suppressions de postes, quoi. Donc tout ça, fallait le prendre en compte. Voilà, je ferme la parenthèse. Et à partir du moment où ma question c'était comment est-ce qu'on donne la parole au monde ouvrier, la question des formes se pose. Et au final, je me suis rendu compte que la question des formes, elle se posait aussi pour eux, sans qu'ils soient vraiment capables de l'expliciter. Je donne juste deux exemples. À chaque nouveau, parce que c'est une entreprise aussi qui a 2 siècles et demi d'existence. Voilà. Donc à chaque nouveau membre de la direction, le syndicat CGT offre 2 cadeaux. Il offre 2 livres. Le premier livre, c'est un livre qui a été écrit par un de leurs anciens dirigeants qui relate un peu les luttes de la métallurgie à Vraise. Et le deuxième livre, c'est un livre qui a été fait par un photographe dans les années 70 qui s'appelle Pierre Le Gall, qui est un livre de photographie en noir et blanc qui photographie un peu l'usine et les à côté, le restaurant d'entreprise, tout ça. Et de même, vous voyez que le travail qui était représenté dans ces livres, au final, il correspondait plus à leur travail, quoi. Savoir que le syndicat est complètement renfermé sur les catégories ouvrières et techniciennes, et qu'aujourd'hui, la sociologie de l'entreprise, elle bascule complètement. Donc c'était assez paradoxal, c'est-à-dire qu'il se rattachait à des formes qui certes marquaient une volonté d'opposition et marquaient une autonomie, étaient expression d'autonomie, et en même temps ils voyaient bien que ces formes étaient ancrées dans le passé. Voilà, alors ils espéraient de ça que ça cultive une mélancolie qui soit ensuite susceptible de stimuler l'action collective, quoi. Bon, ils se rendaient compte, enfin ils espéraient ça. Est-ce que ça se traduisait en acte? Moi j'en étais pas sûr, et moi j'étais persuadé qu'il fallait construire une forme qui corresponde à leur réel, voilà.
Jean-Charles, même question, même punition. Pourquoi toi tu te saisis de cette proposition de Thibault, et comment tu choisis de t'en saisir au départ de cette aventure, et quelles sont les contraintes qui t'ont amené à pousser assez loin cette esthétique du faire avec? Parce que je crois que c'est très présent dans le film. Et faire avec, tu le disais tout à l'heure, c'est pas simplement tendre un micro aux gens pour qu'ils causent, mais c'est une rencontre, quoi.
Ouais. D'abord, il n'était pas question de faire non seulement un film, il n'était pas question de faire quoi que ce soit. Quand Thibault m'a invité, c'était juste... finalement, Thibault a invité plusieurs personnes, dont moi, donc voilà... une sociologue, c'était plutôt dans la perspective d'une rencontre, sachant que c'est pas l'essentiel de mon travail, mais il y a beaucoup de choses dans mon travail où il est question de la construction de soi, de est-ce qu'il y a encore possibilité de construire un nous, mais c'est posé dans mes livres, dans les photos, dans d'autres formes, un peu dans des installations vidéo aussi. Et puis la question du travail ou de ce qu'il s'il peut y encore avoir des questions à poser au travail, ceci c'est enfin bref, c'est une autre question. Je l'ai posé aussi, mais je l'ai pas toujours posé à l'endroit du travail salarié, à l'endroit d'une usine, etc. Je me souviens même à un moment donné, j'ai eu peur qu'on me prenne pour un écrivain de droite. Je me souviens d'un numéro, d'un ouvrage collectif de La Découverte, pour ne pas la nommer. Alors ils avaient fait une série comme ça qui est sortie après en poche sur les plus vendus. Mais il y avait le sexe, la rue, le travail et je sais plus quelle, la guerre, enfin bon, bref. Et donc moi ils hésitaient entre je sais plus quoi et ils m'ont posé le travail. Donc là-dedans il y avait tous les auteurs, il y avait quelques auteurs, autrices un peu expés dont je faisais partie, j'étais un peu la représentation, le représentant des expés. Et puis il y avait tous les auteurs qu'on connaît, j'ai cité Arnaud Bertinam, il y avait François Bon, il y avait Mélisse de Kerangal. Bon, puis à un moment donné la personne donc, il me propose le travail et puis il me rappelle, il me dit bon Jean-Charles Macéras, pour poser une question un peu délicate, bon, on aime bien votre proposition, je sais plus tout ce que j'avais proposé, mais en gros ils me disent bon, vous et tous vos collègues, vous avez tous proposé des trucs sur non pas vous, j'avais pas encore fait ma proposition, il me dit je vous appelle, est-ce que vous tardez à me répondre, ça vous intéresse, j'ai dit oui, mais il dit alors est-ce que je peux vous soumettre une idée, il dit en fait évidemment tout le monde a répondu présent, mais tout le monde ne parle que des damnés de la terre, quoi, en gros. C'est-à-dire des caissiers, des caissières, et comme dans votre travail, vous parlez beaucoup aussi des sphères de recherche, des sphères dirigeantes, enfin, de plusieurs maillons de la chaîne. J'ai dit, oui, en fait, je vais être l'écrivain de droite qui va parler du patron, quoi. Et il me dit, non moins qu'un truc sur les dirigeants. Donc je me suis tapé un truc sur les dirigeants. Donc et là, une des dernières installations vidéo que j'ai faites, qui était produite par le musée de Macval dans le Val-de-Marne, ce sont des cadres sup, c'est des interactions entre des cadres sup dans des tours de la Défense. Donc, mais je pense que je parle aussi beaucoup du travail aliéné à cet endroit-là, parce que ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, enfin, suicidés de France Télécom, ils sont pas tous au bas de l'échelle sociale. Donc aussi, je trouve qu'il y a un déficit de représentation et de prise en compte, y compris au niveau syndical, de la souffrance au travail à tous les échelons. Tous les échelons. Et que c'est un peu facile pour mes potes et moi de se rapatrier sur des vieilles formes parce qu'on les connaît et de refaire Gorin Godard en 2018-2020, quoi. Donc déjà, quand Thibault m'a fait cette proposition de rencontre, je l'ai vécu moyen. Non pas parce qu'il me proposait de rencontrer, un truc sur les dirigeants. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais avoir à dire, quoi? Ma vraie question, c'était qu'est-ce que je vais avoir à dire? Enfin, je sais manipuler des choses et des trucs, je peux faire des photos, tout ce qu'on veut. Mais, bon. Et en fait, en les rencontrant, parce qu'on a posé quand même le micro, mais ça a été des échanges, et en discutant, ils nous ont fait part de tous ces doutes qui sont mis en forme, là. C'est-à-dire des doutes quant au sens de leur existence, de leur lutte, de ce qu'ils allaient faire, même se battre pourquoi, parce qu'en plus, il faut savoir aussi que là, on a affaire à des syndicalistes, presque, je veux dire, c'est des winners en termes de syndicalisme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, en termes de salaire, d'avantages sociaux, ils sont 10 fois plus. Enfin, ils ont 10 fois plus réussi que plein de gens aujourd'hui. C'est presque des nantis du. Enfin, je dis ça gentiment, mais genre le seul mec qui avait une bagnole pourrie sur le parking quand on se retrouvait, c'était moi, quoi. Enfin bon, ça allait bien. Et je pense que par exemple, s'ils étaient allés militer pour la convergence des luttes avec ceux de Sandouville, bah leur réalité de vie, elle n'était pas la même non plus. Donc en plus, j'ai envie de dire, c'est pas qu'ils étaient blasés, mais ils se sont dit, ok, on a accédé à un certain confort matériel. C'était avant le plan social, Mais en même temps, so what et quoi? Et je trouve intéressant les questions plus existentielles, plus sur le sens de leur vie, où ils voyaient bien qu'ils étaient plus en position de lutte contre une figure identifiée, le patron, genre voilà, comme Gorin Godard, on va enfermer le patron et basta, quoi. C'est qu'ils étaient face à une conjoncture mondialisée qui aussi accentuait leurs doutes et leurs positions. Ils voyaient bien même que le soi-disant patron de la boîte, il en savait à peine plus qu'eux sur ce qui allait se passer. Et que c'était vrai que le mec n'était pas dans un pipeau. C'était un autre maillon de la chaîne. Donc moi, quand je suis arrivé, on a senti avec Thibault, et plus on parlait, plus on a eu affaire non pas à des gens
dépressif ou qui avaient abandonné la lutte, mais qui étaient en phase de questionnement sur et le sens de leur existence, le sens de la construction de soi au travail, plus personne n'y croyait, la réalisation de soi. Donc ça veut dire quoi? Vous battez quoi pour garder un outil où vous vous construisiez plus, comme vous n'arrivez plus à construire votre être, votre subjectivité? C'est aussi bizarre quand même. C'est-à-dire qu'on se bat finalement pour le minimum vital, le minimum syndical, sans jeu de mots. Donc vous arrivez là-dedans et dites qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je suis rentré chez moi, je me suis dit mais j'ai rien à faire, rien. Et en fait, en rentrant, je me suis dit mais en fait, j'ai rappelé Thibaut et j'ai dit mais c'est leur doute, c'est ça qu'il faut pousser. Il faut qu'ils deviennent acteurs et actrices. Bon là, c'était qu'acteurs parce que c'est une usine, voilà, c'est une usine. Où il y a que des mecs, donc acteurs de leur propre destin, puisqu'ils savent bien qu'ils ne pourront plus être acteurs de ce destin-là. Et le plan social a donné raison à ça. Je veux dire, 3 mois après, alors qu'ils avaient gagné certaines choses sur un autre plan syndical, on leur dit ouais, au fait, on va licencier la moitié de la boîte, et puis vous, vos compétences, c'est un peu, vous traversez la rue, vous êtes spécialiste d'un métier, puis vous traversez la rue, vous allez faire serveur, quoi. Et en plus, on vous a trouvé un autre job qui a rien à voir avec ce que vous avez fait pendant 30 ou 40 ans, mais il y a une usine qu'on va ouvrir juste de l'autre côté du Havre. Mais pas avec vos compétences, mais c'est pas grave, vous serez formés, puis on s'en fout, quoi. Bon, donc en fait, quand vous prenez tout ça dans la gueule, enfin, c'est même plus des doutes que vous avez, vous savez très bien que... Alors que vous passez le plus clair du temps de votre vie dans un lieu, ça s'appelle le lieu de travail, ça va plus participer, ça participe plus du tout à votre construction. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce que je faisais? Un film sur la dépression? Non. C'est-à-dire que, il y avait ce truc, comment on reprend son histoire en main, comment on construit une histoire, et surtout, on produit quelque chose, on a un geste, artistique ou pas, syndical ou pas, politique ou pas, où on produit du sens, mais qui n'est pas appropriable ni par des actionnaires, ni par des consommateurs ou des consommatrices, mais qui échappe à la possibilité de l'appropriation et sa consommation. Ça s'appelle un peu l'art. Et comme on était dans un CE qui invitait des artistes ou qui faisait des expositions où ils allaient voir voilà, il y a un atelier photo, il y a un atelier dessin dans ce CE adresseur, ils allaient voir des expos, ils allaient au Louvre, peu importe, à Beaubourg, je ne sais pas. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y a eu des débats, par exemple, le joueur de basket et le lecteur d'un catalogue d'art contemporain, cette scène, elle vient d'une longue discussion qu'ils ont eue tous les deux, face à nous, où il y en avait un qui disait, ah non, la culture, c'est quand même ce qui est bien, moi j'aime bien, c'est important d'emmener mes enfants voir des expos, etc., on prend le bus une fois par mois, on va voir une expo à Paris, et son pote basketteur dit, bah non, pour moi la culture, c'est aussi le sport, c'est la bouffe, c'est des pratiques de vie. Il disait pas pratiques de vie, évidemment, mais c'était ça, et c'est tout aussi valable. Donc, je les ai rapprochés, j'ai remis en scène leur discussion, j'ai rapproché l'art du sport, le déjeuner sur le stade, bon, enfin tout, avec tous les clins d'œil qu'il y a, etc. Et puis on a mis ça en image. On a mis ça en image. J'ai proposé, par exemple, il y a quelques passages qui vont avoir avec des tableaux vivants, on va dire. Alors c'est quoi ces tableaux vivants? Pourquoi j'ai choisi ceux-là? Bon, le déjeuner sur le stade, c'est le déjeuner sur l'herbe, le clin d'œil, c'est le rapprochement du sport, et bon, peu importe. Et puis le truc un peu provo, qu'est-ce qui est provocateur là, de se mettre face à l'usine? Donc c'est plus une femme nue devant des bourgeois habillés. La provocation, s'il y en a une, c'est un petit clin d'œil, elle est modeste, et c'est plus une provocation, c'est plus un clin d'œil, quoi. Mais surtout, ce qui est important, c'est l'idée qu'ils vont construire eux-mêmes des tableaux, ils vont s'approprier des formes d'art qui sont pas forcément données d'entrée de jeu, et surtout ils vont refaire cette lecture de certaines œuvres que j'avais proposées pour raconter ce qui leur arrive. Le tableau devant le où ils sont, il y a les deux gars qui sont devant un mur d'Ecati. Bon, c'est un remake de La Diseuse de Bonaventure du Caravage. Ce qui m'intéressait dans La Diseuse de Bonaventure, c'est tout le baratin aussi qu'on parle, bon, pour parler en termes sociologiques à la mode depuis une quinzaine d'années, de storytelling qu'on resserre aux ouvriers, aux ouvrières, pour dire comment, hein, c'est la question que posent Capello et Boltanski dans leur livre sur le capitalisme, c'est toutes les stratégies que l'entreprise a dû trouver pour réengager des subjectivités au travail, alors qu'ils ne peuvent plus s'approprier, et de loin, le produit de leur travail, non seulement parce qu'ils produisent pour des choses dont ils ne voient pas la couleur, mais surtout on est dans un rapport d'abstraction au travail, que ce soit sur une chaîne d'automation où vous contrôlez, hein, que telle pièce est bien rentrée dans telle autre, mais sur un écran, et qu'il y a la moitié du travail qui se fait en temps masqué, et puis que vous êtes dirigeant, vous êtes devant un écran aussi, mais ce que la décision que vous allez prendre, elle n'a de sens qu'avec une autre décision qui est prise à 20 000 km de là. Finalement, on est tous et toutes de plus en plus face à un rapport complètement dématérialisé. On voit même plus la bagnole sortir de chez soi. On dit ouais, c'est nous qui l'avons faite. Donc on sait très bien qu'un des gros discours de l'entreprise depuis que ces logiques sont enclenchées, c'est d'essayer quand même de motiver les troupes, quoi. De leur raconter donc la diseuse de bonne aventure, sauf que le mec, il y croit moyen. Et puis, sur le stade, on voit aussi ces personnes, ce qui était intéressant, c'est, on parle de gestes au travail, où à un moment donné, le corps est de moins en moins présent, parce que vous êtes devant des ordi, etc. On a ce dessinateur industriel, Jonathan, qui est là avec sa souris. Mais même quand vous êtes soi-disant sur le poste, dans l'usine, moi, j'ai visité l'endroit où travaillait vraiment devant les machines. Déjà, j'étais surpris que même avant le Covid, on puisse faire du rollerblade entre deux postes de travail, parce qu'ils sont, genre, à 15-20 mètres les uns les autres, il y avait presque plus, bien avant le plan social, personne dans l'usine. Donc aussi, le truc de l'en commun, de la sociabilisation dans le travail, etc. Les mecs, ils se parlent pas. Ils sont à des postes très isolés. Donc ils sont dans des logiques, pour parler comme Guy Debord, d'atomisation des foules, mais radicales, quoi. Donc, ils sont déjà désolidarisés. Alors, pour le patronat, c'est génial. Pour la logique dominante, c'est génial. Ils vont plus se réunir, quoi. Donc, j'ai aussi remis en scène des gens qui sont, et c'est aussi ce qu'ils m'ont dit, ce qui était intéressant, c'est que, ils étaient en groupe syndicaliste, mais ils me parlaient tous, finalement, individuellement de leur souffrance, quoi. C'est-à-dire, c'était des individus qui arrivaient plus à faire collectivité. C'est des individus qui arrivaient plus à faire sens en commun. Eh ben ça, on l'a mis en scène avec l'homme. On a repris l'homme qui marche, Giacometti. On les a tous mis comme ça, tous courbés. Alors, en plus, vous êtes un mec un petit peu, vous faites un peu une chorégraphie. Déjà, fallait les mettre au boulot. Thibault, il n'osait pas leur dire qu'il y avait des tableaux vivants, qu'à un moment donné, ils allaient plus parler. On allait reprendre ce qu'ils avaient mis, mais on essayait de le mettre en image et pas tout en mots. Et moi, je trouve ça intéressant aussi ces corps masculins au travail. Hein, CGT, c'est de quoi je parle souvent. Je me souviens d'un débat assez violent d'Alstom quand ils ont vu des corps représentés au théâtre. C'était dur, quoi. Surtout quand c'était des nanas qui parlaient. Bref. Et là, j'ai dit, on part. Sauf là, il n'y a pas un Giacometti, il n'y a pas un homme qui marche. Il y en a sept. Et littéralement, vous allez partir chacun dans votre direction, quoi. Par exemple. J'ai donné trois scènes, il y en a plein d'autres, je vais pas toutes les décrire. Mais ce qui était intéressant, c'était la logique de mise à distance, d'appropriation et de produire quelque chose ensemble qui ne serait pas récupérable. Voilà, ça c'était aussi important. Bon, en gros.
Alors je vais vous passer la parole. Ou alors Thibaut, si tu veux rebondir. Ou sinon, la parole est à vous, il y a des micros dans la salle. Donc, donnons la parole à la salle, me dit Thibault.
Peut-être... il faut quand même dire que il y a eu quand même tout un... Entre le moment où on a parlé de faire un film de fiction avec eux, et le moment où ils ont accepté de jouer dans ce film, il s'est passé un certain temps. À savoir qu'il a fallu, les convaincre, parce qu'il y avait énormément d'hésitation, énormément de réticence et énormément de résistance même, qui était essentiellement au fond de deux ordres. La première, c'est qu'ils voyaient pas trop l'intérêt de représenter des situations qui eux, ils ne considéraient pas comme syndicales. C'est-à-dire leurs pratiques de loisirs, etc. Ils voyaient pas l'intérêt. Ils voyaient pas comment, à partir de ces situations-là, on pouvait utiliser ces situations-là pour poser des questions de portée plus large et plus durable et plus générale, et des questions au final qui sont d'ordre politique, quoi. À savoir comment on aménage son temps et son espace, comment on arrive à bricoler, comment on arrive à détourner des façons de consommation, etc. Ça a quand même été la première difficulté. Et la deuxième, c'est que pour avoir côtoyé beaucoup de militants syndicaux, il y a quand même une tendance, et notamment à la CGT, à considérer que l'émancipation, au fond, c'est une prise de conscience qui vient par le haut, quoi. À savoir que, avant d'être conscient, le salarié, il est un peu aliéné, un peu ignorant. et une fois conscient, il devient politisé, mobilisable, quoi. Ça, c'est quand même une espèce de surmoi marxiste qui perdure quand même beaucoup dans les rangs syndicaux. Oui, c'est vrai. Vous vous marrez.
Il y a des marxistes dans la salle.
Sortez tout de suite. Voilà. Mais justement, cette manière que Jean-Charles a eue de les mettre en situation de montrer des comportements qui correspondent vraiment à la manière dont ils occupent l'espace et ils occupent leur temps, quoi. C'était une manière aussi de déplacer, à mon avis, le contenu de la lutte. À savoir que, quand même, c'est un autre surmoi marxiste, ça. Je suis désolé. Je continue. On a quand même tendance à beaucoup réduire la question de la lutte à des questions assez corporatistes au final. En fait, on réduit la négociation du conflit de classe à on échange du travail contre du salaire, quoi. Voilà. Et donc le conflit de classe se résume à cette question du salaire, à cette question de la consommation au final. Et là, je trouve que la manière dont Jean-Charles les a filmés, ça permet de mettre en avant d'autres questions, quoi. On parle beaucoup de pouvoir d'achat, mais au final, c'est pouvoir acheter quoi. Ou ils disent souvent aussi, il faut gagner plus, mais gagner plus de quoi. Et avec eux, c'est vrai qu'on a pu poser toutes ces questions-là, quoi. Enfin, en tout cas, le film les pose et il les montre se les posant à leur propre échelle à eux, et il apporte pas des réponses. C'est vrai que, enfin, là, il y a une absence de réaction, mais peut-être que ma prise de... Voilà, là. Mais c'est vrai qu'on l'a montré un peu, ce film, quand même. Notamment, on a fait une projection au Havre, dans un cinéma. Moi, il nous tenait beaucoup à cœur que... Alors, ils avaient vu une version pas tout à fait achevée du montage, à la fin, juste avant Noël 2020. Mais bon, à cause du Covid, etc., on a dû reporter, mais il était très important pour Jean-Charles et moi qu'on puisse leur montrer dans de vraies bonnes conditions, et donc dans un cinéma. Et donc, on a organisé une projection dans un cinéma pour les acteurs, pour la famille, pour les amis. Et c'est vrai que les gens sont assez sidérés. Enfin, ils restent... Vraiment, il y a un trouble. Il y a un trouble profond de la part des militants. Parce qu'ils, je crois qu'ils cherchent une ligne directrice. Mais ils n'arrivent pas à se dire qu'il n'y a pas de ligne directrice. Voilà. Et au fond, c'est à eux de faire le travail, c'est à eux de tirer le fil, de dérouler la plot, quoi. Au fond, c'est le travail du spectateur, quoi. Et c'est vrai, je finis juste avec une anecdote, parce que c'est assez drôle. On a invité notamment l'Institut d'Histoire Sociale CGT, qui sont amis avec eux, que moi-même je connais, que j'ai rencontré plusieurs fois. Et au pot qu'a suivi la projection, je vois le secrétaire... Il commence à me parler de choses et d'autres, de la météo, etc. Donc, comme je sais qu'il faut être assez franc avec eux et que on peut se permettre, je lui fais non, mais la météo, je m'en fous, moi. Le film. Et il m'a fait comme ça. Et il m'a fait une moue dubitative. Et il m'a fait, c'est bizarre. Et ensuite, il a réenchaîné, il a dit qu'il préparait une exposition sur la lutte des métallos au Havre en 1922, quoi. Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est on se raccroche à des formes qu'on sait en totale déconnexion avec le réel. Et je suis aussi long que Jean-Charles Masséra. Je trouvais important, moi, que ce soit une fiction et pas un documentaire. Je tiens juste à le dire, après on laissera la parole à Jean-Paul. Je crois que la fiction, elle est là pour... on a besoin de la fiction pour révéler le réel, quoi, pour le nommer, pour le décrire. Et elle a de ça d'intéressant qu'elle permet en même temps de produire de la distance, quoi. Voilà. Et parce que le réel, au final, le réel, c'est pas la... Bon, là, je pars un peu dans tous les sens, mais le réel, il n'existe pas en soi, quoi. Je veux dire, on a besoin de la fiction. Et le réel, au fond, c'est la manière dont les gens investissent la réalité, quoi. Et c'est tout leur rapport au monde. Et pour ça, on avait besoin de la fiction. Voilà. Jean-Paul.
Alors c'est pas Jean-Paul, c'est juste derrière.
Ah, je suis désolé.
Allez-y.
Oui, moi j'ai trouvé votre film passionnant, mais plus que troublant. Je suis un militant depuis quelques années sur la cause du salaire à vie de Bernard Friot et donc d'une autre approche du rapport au travail et au quotidien, et en même temps passionné par l'art contemporain. Donc ce que vous avez produit m'intéresse, mais j'aurais voulu que vous m'en disiez plus sur la façon dont les acteurs ont vécu ça quand ils ont vu le film, et leurs collègues qui de leur entreprise, même si votre œuvre appartient au réalisateur, mais vous dites on a donné la parole aux salariés, et oui, d'accord, mais est-ce que justement ils s'y retrouvent dans cette parole? Mais bon, ça n'enlève rien à la qualité que moi je trouve à votre film, avec énormément de choses qu'on aurait envie de revoir. J'ai pris note des titres des deux ouvrages qu'on voit dans le film. Enfin, il y a plein de choses, quoi.
Mais c'est un clin d'œil dans le film, parce que Sandra Lucbert venait de m'envoyer son livre sur, bon, voilà, et j'ai trouvé que il y a ce petit, ouais, vous l'avez vu, il y a ce petit clin d'œil clin d'œil à un livre qui raconte quelque chose de triste, hein, puisqu'elle reprend le verbatim du procès de France Télécom. Et voilà, elle venait de m'envoyer son livre, et je sentais que quand on allait projeter le film, on allait me reparler, tu parlais de vieilles références, on allait me reparler de l'établi, tout ça. Donc j'ai dit, OK, on va prendre un livre hyper contemporain qui vient de sortir et qui touche pas simplement, enfin, qui touche le monde salarié, mais pas simplement les damnés de la terre habituels. Je dis ça, encore une fois, sans mépris, faut bien m'entendre. Je pense que quand on parle de conditions d'aliénation du travail, c'est très facile de se reporter une sempiternelle fois sur le caissier ou la caissière du coin. Je suis tout à fait d'accord, mais d'abord, on le sait 10 000 fois, c'est comme, j'étais intervenu on m'avait invité à la Biennale de Saint-Étienne du design spécialisé sur le travail, je devais intervenir dans les gares, dans la ville et dans l'expo. Et au début, on dit le geste au travail. Maintenant, il y a 6 photos, il y a un geste au travail, mais j'ai essayé de photographier une idée, un concept, et il y a une dirigeante d'entreprise, il y a un technicien, une ingénieure, etc. Pour moi, c'est très important. Donc là aussi, c'était le petit clin d'œil. C'est j'ai envie de dire, je contemporanise un peu les débats qui se posent à cet endroit du travail. Voilà. Et comme j'avais le livre de Sandra Lucbert, je trouvais que c'était mieux. Parce que je savais, et ça a pas loupé, quand il y a des discussions à OAV, il y a des gens qui vont me dire, mais vous avez pas parlé de l'établi dans le film. Voilà, je ferme la parenthèse.
Mais je rebondis sur la question, tu peux passer le micro à Thibault.
Oui,
sur la question
de la réception du film.
Alors ouais, c'est bizarre ou c'est pas bizarre? La réaction qu'ils ont eue, parce que tu dis, le secrétaire dit c'est bizarre. Est-ce que les protagonistes du film ont eu cette même réaction avec ce mot bizarre?
Si, je pense que c'est très compliqué. Les effets, ils se feront sentir sur le long terme. C'est vrai que c'est évident que ça les turlupine, que ça fait son chemin. Je pense qu'ils sont très fiers, vraiment, de l'avoir fait, très heureux même, parce qu'au moment du tournage, on a quand même bien rigolé. Oui, ça se voit, oui. Et on a tourné dans des conditions, il est vrai, pas toujours faciles. Enfin, on sait, parce que ils ont fait ça sur leur temps de délégation, essentiellement. Donc c'est vrai que par exemple la scène du gymnase avec le basketteur Alexis et Patrice, on l'a tournée en début de quart du matin, en fait, à 6h. Et à 8h30, Alexis partait à la réunion du CE. Et Patrice est parti après à 10h il est parti bosser, en fait. Donc on a fait ça dans les interstices, mais on a bien rigolé. Donc voilà, je pense qu'ils sentent qu'on n'a pas trahi leur parole, qu'on n'a pas dénaturé leur vécu, que surtout on n'a pas ni parlé ni pensé à leur place. Ça, ils nous l'ont dit, vraiment. Mais que effectivement, les effets. Moi, j'étais persuadé qu'en faisant ça, ils feraient l'expérience de moyens qu'ils pourraient ensuite réutiliser ailleurs. Qui ferait l'expérience de posture de travail, d'une démarche, etc., qui pourrait utiliser sans nous, évidemment. Mais ailleurs, il se trouve que le film s'est fait percuter par un plan social, donc ce sera peut-être effectivement ailleurs, mais ce sera pas adressé à Rennes, parce qu'ils sont, à l'exception d'un, ils sont tous ou licenciés ou ils partent, ou ils ont demandé à partir. Voilà, mais ça fait son chemin. Je sais que quand on a organisé la projection avec les acteurs, la famille et les amis. Il y en a un, Ludovic, celui qui passe la machine à trait là. Il pouvait pas venir. Et moi, je faisais un essai la veille avec le projectionniste. Et donc je lui avais dit, bah écoute, tu peux pas venir, mais est-ce que tu veux venir avec moi? On sera que tous les deux dans la salle. Il m'a dit d'accord. Et au moment de d'une des scènes, pas tout à fait finale, mais où il marche sur le terrain seul et il tente d'attraper l'usine qui s'évanouit, je sais qu'il m'a pris le bras pendant la séance. Voilà. Après la réception par les salariés, je peux pas vous répondre parce qu'on n'a pas encore organisé de projection publique au Havre. Elle aura lieu. Vous êtes le bienvenu, tous d'ailleurs. Le Havre est une très belle ville. Il y a beaucoup plus de choses que ne le pense Édouard Philippe. Donc elle a lieu vendredi 26 à 18h30 au cinéma Sirius.
Il y a une petite chose quand même. Il y a une petite chose. Moi, je veux pas. S'il y a bien une parole que je peux pas m'approprier, c'est celle des gens qui m'ont parlé après le film. Ils ont eu du mal parce que aussi il y avait de l'émotion aussi quand il a été projeté le film. Mais il y a juste un détail que Thibault a oublié, mais qui pour moi est assez fondamental, c'est que quand il y a eu le plan social, on avait encore un tiers des scènes à tourner, quoi. Et moi j'ai dit, on s'est dit avec Thibault, ça va être mort, quoi. Enfin, il y a plus important que notre petit film, etc. Et 4 jours après, Thibault me rappelle, ils disent les gars veulent finir le film. Quand vous avez ça, j'en ai un peu les larmes aux yeux, quoi. Vous dites bon, on s'est pas tout à fait vautré quand même, quoi.
C'est vrai, c'est des forts en gueule, et je le dis avec beaucoup d'affection. Mais il y a beaucoup de pudeur chez eux aussi. Ouais. C'est vrai que ça c'est beaucoup. Moi, je pense que le conflit, enfin c'est un conflit, mais dans le bon sens du terme, les frictions qu'on a eues avec eux, c'est ce qui donne aussi toute sa valeur au film, je le crois franchement, quoi. Je pense que s'il n'y avait pas eu tant de résistance justement à vouloir faire ce film au départ, il n'aurait pas cette gueule-là, quoi. Ouais.
Est-ce que vous avez des réactions? Moi, je trouve que dans ce que tu dis tout à l'heure sur la réaction d'un des syndicalistes qui dit c'est bizarre, ou je sais plus si Jean-Charles disait que ça inscrivait du trouble, les gens étaient troublés. Je trouve que c'est un bel hommage au film parce que ça veut dire que les gens rencontrent quelque chose qui n'est pas eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est à la croisée de deux subjectivités croisées, celle de Jean-Charles, la tienne, Thibault aussi, celle des acteurs du protagoniste du film. Et je trouve que c'est le plus bel hommage à rendre à une œuvre d'art, c'est que on se reconnaît pas soi-même, on se reconnaît avec les autres ou contre les autres, quoi. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et je trouve qu'une des qualités du film, c'est d'éviter deux pièges qui, en général, font florès dans les films sur le travail ou sur le monde du travail, puisque là, finalement, s'il s'agit plus du monde du travail que du travail lui-même, c'est que ça évite le piège du populisme. L'autre soi-même, ce serait de montrer ces gens magnifiques, les ouvriers glorieux, heureux, etc. Et en même temps, le piège du misérabilisme, donc de les réduire simplement à des gens qui seraient subordonnés à des identités malmenées. Et ça, je trouve que c'est deux pièges à éviter, qui sont pas si faciles à éviter, et que le film évite très bien, avec une dimension qu'on a peu évoquée, qui est la dimension liée à l'humour, en fait. On sent dans les scènes, parce que tu l'as fait exprès, que cette dimension d'humour presque burlesque à certains moments redonne cette dimension justement d'éviter cette dimension misérabiliste qui serait facile. Tu le disais tout à l'heure, Jean-Charles, chaque fois qu'on parle du monde du travail, on va chercher la caissière subordonnée ou la personne qui est au bord du suicide. Donc et politiquement c'est à interroger, et je pense que ce film va interroger. Je ne sais pas s'il interroge le travail. Je ne suis pas sûr de partager tous les présupposés sur il n'y a plus rien à attendre du travail en tant qu'activité, mais ça c'est autre chose. Ce n'est pas un débat qu'on va ouvrir. En tout cas, il évite ce piège-là en essayant de poser des questions qui sont d'ordre philosophique, en fait. Et d'ordre philosophique, à partir, je vais prendre une phrase de Thibaut Blachka qui a écrit un texte de 36 pages là-dessus, à partir du peuple réel. Et pas du peuple fantasmé. Alors, je sais plus si c'est le peuple inventé que tu dis, mais voilà, à partir des situations réelles. Et à partir des situations réelles, on transforme quelque chose. Le film transforme quelque chose. Il rend pas compte de la situation réelle. Il fait quelque chose avec le réel. Et ça, je trouve que c'est assez réussi de ce point de vue-là. Voilà. Bah, oui, il y a une question, c'est formidable. Je vais vous donner le micro.
Ouais. Oui.
Ça sera malheureusement la dernière question parce que après, on enchaîne avec avec les balances du ciné-concert, me semble-t-il, cher Pascal.
Merci. Je voulais déjà saluer le travail que vous avez fait autour de ce film qui est très parlant quand on le voit, qui est évident. Que en fait là, cette parole comment dire libère quelque chose qui pourrait être de l'aliénation du travail. Il y a quelque chose qui reprenne possession de d'une histoire qui leur appartient. Mais ma question voulait surtout être sur l'élaboration du film. Comment s'est écrit le scénario? Est-ce que c'est vous qui l'avez écrit? Est-ce que c'est des témoignages qu'ils ont donnés? Est-ce que vous l'avez fait ensemble?
Très rapidement, entretien, on a discuté. À partir de ça, j'ai aussi intégré mes quelques questionnements et titillements. Et on leur a proposé le scénario et quand on que j'ai écrit de A à Z avec Laure dans le montage, etc. Mais à partir des questionnements qu'ils m'avaient posés. Et des fois, j'ai formulé les questions un peu autrement, un peu sur un mode plus dramatique ou sur un mode plus drôle. Et des fois, on a discuté sur des mots, l'usage des mots. La scène là où ils sont avec la vache et tout, il y a eu tout un débat sur les mots qu'ils allaient utiliser. Donc j'ai réécrit en fonction des mots. On a discuté, on dit ouais, mais ça c'est un mot qui dit plus à telle génération, mais en même temps ça veut dire ça. Oui, mais moi je dis ça. Donc on a, je l'ai fait valider, si vous voulez. J'ai pour parler rapidement, j'ai dramatisé au sens d'écriture esthétique ce qu'on avait échangé, ce qu'il m'avait raconté. Voilà. Et je l'ai mis en scène.
Oui, c'est une succession d'échanges. Mais c'est vrai qu'on a fait des entretiens en bonne et due forme. Par groupe de deux ou trois en fonction des affinités. Parce que souvent dans les scènes, ils apparaissent rarement seuls quand même.
En couple d'amis.
Ouais, voilà. Parce que effectivement, ils sont tous camarades, copains, mais il y avait des affinités plus grandes. Ce qui est logique, quoi. Ce qui est l'autre tout collectif, quoi. Et effectivement, Jean-Charles a écrit une première version du scénario comme ça, que j'ai critiqué, etc., machin. Et aussi, le tournage a été haché au final. On a tourné une première partie à l'été 2019, et la deuxième partie, on n'a pu la tourner qu'à l'été 2020. Voilà, donc le scénario aussi, il a évolué aussi au fur et à mesure. Jean-Charles a rajouté des scènes comme ça, et aussi parce que il fallait tenir compte, je pense, mais sans trop en faire, parce que fallait rester dans le domaine de la fiction. Il a fallu tenir compte aussi du plan social, quoi. Voilà. Même si la situation d'incertitude de l'entreprise, elle était déjà là avant, quoi. Je veux dire, c'est vrai que le plan social apparaît comme un coup de semonce, mais au final, pas tant que ça, quoi. On s'y attendait.
Malheureusement, ça sera la dernière prise de parole. Merci beaucoup à tous, merci à tous les intervenants, aux organisateurs de cette belle rencontre. Vous allez pouvoir retrouver les actes de cette rencontre sur la plateforme Culture Art Travail, travailculture.org, dans quelques semaines, une fois qu'on aura débriefé, décanté tout ça. Merci beaucoup. Dans 2 heures exactement, il y aura un ciné-concert ici.
2h30.
2h30, La Mécanique des Roches. Et je laisse la parole, le mot de la fin, à Pascal Puig, la directrice de Mon Ciné, qui est partenaire et qui a accueilli cette rencontre. Merci beaucoup, Pascal.
Alors, merci. Bon, je redis merci aux intervenants, au public. C'est vrai que c'était vraiment intéressant pour nous de pouvoir accueillir dans Écran Total cette journée-là, parce que ça renoue aussi, ou du moins ça prolonge le projet initial de toujours avoir un regard particulier sur le travail dans ce festival. Donc je pense qu'à la suite de ces échanges, on pourra imaginer aussi d'autres choses, et puis peut-être des relations peuvent se nouer entre les intervenants et des gens qui étaient présents dans la salle. Donc je ne serai pas plus longue, parce qu'effectivement maintenant il doit y avoir une balance pour le ciné-concert de tout à l'heure. Le ciné-concert de tout à l'heure, c'est à 20h30, mais si vous n'avez pas vos places, vous pouvez venir à 20h commencer à les prendre. C'est un documentaire, c'est un ciné-concert qui est un documentaire, comme je crois déjà dit, qui se passe, qui a été tourné plutôt dans la vallée de la Romanche, à l'usine Livet et Gavet. Je vous invite à le découvrir si vous avez encore du temps, parce qu'il est, il est très intéressant. Je suis désolée un petit peu de couper un peu abruptement ce débat, mais ce que je vous demande, je pense que vous pouvez continuer à discuter dehors. Par contre, je vous demande de quitter vraiment rapidement la salle, soit par ce côté, soit par là, et de prolonger vos discussions dans le hall. Et voilà, je vous remercie encore d'avoir été présents.